Comment séparer le bien du mal ? Tout commence par un choix. Devant le choix de ne croire qu'en lui ou en Dieu, l'homme a choisi. Et tout a changé, le plongeant dans un océan de confusion. Comment choisir ? Accepter ou refuser ? Continuer ou abandonner ? Se relever ou rester à terre ? Prendre ou donner ? Choisir l'orgueil avant l'humilité ? Être vrai ou mentir ? Aimer ou haïr ? Peu à peu, tout se mêle entre le bien et le mal. Comment les séparer ? Choisir, tout se résume à cela. Ma vie sera le reflet de mes choix. Et mes choix d'hier déterminent ma réalité d'aujourd'hui. Et ceux d'aujourd'hui formeront le paysage de demain. Comment séparer le bien du mal ? Tout commence par un choix. Catharsis.
C'est un immense plaisir pour moi de vous apporter la parole, particulièrement sous le thème de l'espoir. Et je crois que j'aurais pas besoin de vous convaincre pour vous dire que en ce moment, nous avons besoin d'espoir plus que jamais. On dirait vraiment, on vit des temps où tout partout à travers la planète au complet, les gens semblent avoir perdu l'espoir. Alors, en ces temps difficiles, il est encore plus primordial de s'attacher, il est encore plus important de savoir, de se rappeler qu'il existe une source d'espoir qui est intarissable et qui est éternelle. Et cette source, bien sûr, est Dieu. Et vous connaissez probablement le dicton qui dit « Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir ». Mais j'aimerais vous dire aujourd'hui que l'inverse est aussi vrai. Tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Et juste en commençant, commençons par une simple définition de l'espoir. L'espoir, en fait, qu'est-ce que c'est? L'espoir, c'est le fait d'espérer, d'attendre avec confiance, la réalisation dans l'avenir de quelque chose de meilleur, de quelque chose que l'on désire. Et l'espoir joue un rôle tellement important dans nos vies. Juste pour vous illustrer comment l'espoir est important, il y a quelques années de ça, le New York Times Magazine a écrit un article dont le titre était « Eugène Lang, un investisseur, qui a fait des rêves universitaires une réalité, décède à l'âge de 98 ans ». Et lorsque je me préparais pour vous apporter ce message-là, cet article-là m'est venu à l'esprit et je suis allée un peu voir le contexte dans lequel ça a été écrit. Et c'est fascinant parce que l'article nous parle d'un milliardaire, un philanthrope qui a changé la destinée de jeunes étudiants. Monsieur Lang a été invité à donner un discours dans une école primaire qu'il avait fréquentée auparavant, une école primaire qui était située à Harlem, dans un quartier, comme vous savez, Harlem est un quartier défavorisé de New York. Et il s'était bien préparé et il voulait raconter à ces jeunes finissants de sixième année comment c'est important de travailler fort dans la vie pour réussir, comment il fallait se retrousser les manches et il était vraiment là pour vraiment impacter ces jeunes. Et juste avant de monter sur l'estrade pour apporter ce discours, le directeur de l'école primaire a échangé quelques mots avec lui et il lui a dit, vous savez, Monsieur Lang, ces jeunes que vous allez adresser, ces finissants, cette cohorte qui finissent la sixième année, vous savez, à cause de la pauvreté à Harlem, à cause des problèmes familiaux, de violence, de drogue autour d'eux, le trois quarts de ces jeunes étudiants ne termineront pas leur école secondaire. Alors, M. Lang a été bouleversé par cette statistique et l'histoire dit qu'il s'est senti comme un peu ridicule et en l'espace de quelques instants, il a complètement changé son discours. Et il est monté sur l'estrade et a commencé à adresser les jeunes et à leur raconter quel a été un des moments les plus mémorables de sa vie. Et pour lui, cet homme, un des moments les plus frappants, c'était le discours de Martin Luther King en 1963 à Washington. Vous savez, le célèbre discours où Martin Luther King a dit « J'ai un rêve, I have a dream ». Et il a regardé ces jeunes étudiants-là dans les yeux et il leur a dit hein, « Tout le monde devrait avoir un rêve. Vous devriez avoir un rêve ». Et il a ajouté à cela qu'il s'engageait à payer les frais universitaires, les frais de scolarité universitaire à tous ces jeunes étudiants qui compléteraient leur école secondaire et qui iraient à l'université. L'histoire, la destinée de ces enfants a complètement changé à partir de ce jour-là. Ils ont eu pour la première fois de leur vie la pensée, l'espoir que leur avenir pouvait changer. Et savez-vous comment l'histoire se termine? L'histoire se termine que 90% des jeunes élèves de sixième année ont complété, grâce à l'espoir, ont complété leur école secondaire. Plusieurs sont allés à l'université et certains même ont fait des études supérieures de deuxième et troisième cycle. Ce qui est fascinant dans l'histoire, c'est que ces jeunes ont continué de vivre dans le même milieu familial, dans les mêmes problèmes sociaux de drogue, mais l'espoir leur a donné la force de travailler à l'école, de faire des bons choix, la force de réussir et d'accomplir leurs rêves. C'est ça l'espoir. L'espoir, c'est un choix. C'est un choix. Ces enfants ont fait le choix de croire que M. Lang allait honorer sa promesse et payer leurs frais de scolarité universitaire. Ces enfants ont fait un choix. Ils ont choisi de penser que c'était possible de réussir dans la vie. Ils ont choisi l'espoir, choisi de croire que leur destinée pouvait changer. Et c'est effectivement ce qui est arrivé, leur destinée a changé. L'espoir est un choix. Mais je dirais plus spécifiquement, l'espoir est un état qui est basé sur un choix. Et j'aimerais juste partager avec vous le premier point de ce message, c'est de se rappeler que l'espoir est un choix qui ne dépend pas de nos émotions, qui ne dépend pas de notre personnalité. C'est-à-dire, est-ce que des gens, parce qu'ils ont une personnalité plus optimiste, ont plus de facilité à choisir l'espoir? Non. Et l'espoir est un choix qui ne dépend pas ni de nos émotions, ni de notre personnalité et aucunement des circonstances. Et il y a des études qui ont été faites, et c'est sur l'espoir, sur le bonheur, des études qui ont été faites, des études internationales, qui ont montré que l'espoir pouvait être choisi dans des pays où il y avait beaucoup de difficultés. Et ces études ont montré que la Serbie est un des pays où on retrouve le plus bas taux de bien-être et de bonheur. Et pourtant, les études internationales, ces études-là ont montré que les adolescents serbes ont un niveau d'optimisme plus grand que leurs pères dans d'autres pays favorisés. La Serbie est aux prises avec des problèmes de guerre, de récession économique, et pourtant, on retrouve l'espoir dans la vie, dans le cœur de ces adolescents-là. Et un fait qui est encore plus fascinant, c'est que le fameux proverbe que je vous ai cité au début, « Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir », est un proverbe serbe. Donc, il est possible de choisir l'espoir malgré nos émotions et malgré les circonstances dans laquelle nous vivons. Mais j'aimerais préciser, avant d'aller plus loin, qu'il y a une énorme différence entre l'espoir et la pensée positive. C'est deux choses complètement différentes. Il y a une différence entre l'espoir et être quelqu'un qui est optimiste. Regardez ensemble ce petit tableau-là qui nous dit quelle est cette différence-là. L'optimisme, c'est la croyance générale en un avenir prospère basé sur nos capacités ou sur les capacités de quelqu'un d'autre à bâtir cet avenir prospère-là. Et ça, c'est un peu dangereux, parce que lorsqu'on base notre espoir sur nos capacités seules ou seulement sur les autres, les attentes des autres, bien, c'est possible d'avoir des faux espoirs. Lorsque notre espoir est basé uniquement sur nous, ceci peut engendrer de faux espoirs. Par contre, qu'est-ce que c'est le vrai espoir? L'espoir, lorsqu'il est basé sur l'amour, les capacités et les promesses de Dieu à bâtir cet avenir prospère. Ceci est le vrai espoir. L'espoir est un choix qui ne dépend pas des émotions et l'espoir est un choix qui doit reposer sur une solide fondation. Et comme chrétiens, comme croyants, nous avons toutes les raisons du monde de choisir l'espoir. Dans le livre des Hébreux, j'aimerais qu'on regarde ce texte-là ensemble aujourd'hui, dans le livre des Hébreux, au chapitre 10, au verset 23, il est écrit, hein, « Restons fermement attachés à l'espérance que nous connaissons comme vraie, que nous reconnaissons comme vraie, car celui qui a fait les promesses est digne de confiance. » J'aimerais qu'on s'arrête un instant sur le dernier point de ce passage-là. C'est tellement puissant de savoir que celui qui a fait la promesse est digne de confiance. Dieu ne nous donne pas de faux espoirs. Malheureusement, trop souvent, nous nous accrochons à de faux espoirs. On s'est fait faire de faux espoirs parce qu'on s'est fait faire de fausses promesses par des personnes qui n'ont pas toujours été dignes de confiance envers nous. Mais la parole de Dieu le déclare. Nous pouvons avoir cette espérance parce que celui qui a fait la promesse est digne de confiance. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse, hein, la Bible dit, il est immuable. Il ne change pas. Celui qui a fait la promesse, il est omniscient. Il connaît tout de toi. Il connaît tout de ta situation. Celui qui a fait la promesse est aussi omnipuissant. Il peut tout accomplir dans ta vie. C'est pour ça que nous pouvons avoir l'espoir. Et aussi dans le livre des Hébreux, il y a un verset qui pour moi est un verset tellement fondamental de ma vie et que j'aime particulièrement. Et c'est lorsque, en Hébreux 6, chapitre 6, verset 19, il est écrit, hein, « Cette espérance est pour nous comme l'ancre de notre vie. Elle est sûre et elle est solide. » Nous pouvons, lorsque nous mettons notre espoir en ce Dieu-là qui est digne de confiance, nous pouvons, notre vie repose sur un rocher qui est solide. Et peut-être que la prochaine diapositive va peut-être vous faire sourire un peu. Je ne sais pas si vous me reconnaissez, c'est moi ici, 30 ans plus jeune. J'ai à peine changé, disons. Mais lorsque j'ai fait une maîtrise en océanographie et au cadre de, dans ce cadre-là d'études, j'ai été appelée à faire des missions océanographiques sur le fleuve Saint-Laurent. Et peut-être pour ceux qui nous écoutent et vous ne connaissez pas, vous n'avez pas d'idée qu'est-ce que c'est le fleuve Saint-Laurent, c'est un cours d'eau qui est passablement très vaste. On appelle un estuaire à la hauteur de Rimouski. Et sur ce bateau où j'étais océanographique, on travaillait des quarts de jour, de nuit. Et sur le bateau, c'était tellement immense comme étendue d'eau qu'on ne voyait aucun, on ne voyait pas l'horizon. Et lorsque le vent se levait, c'était une période, c'était en automne, et lors d'une des missions, le vent s'est levé et le bateau s'est mis à tanguer à droite et à gauche. Et c'était tellement comme ébranlant, on avait tous un peu peur, que le capitaine a choisi, hein, de se détourner, de changer d'endroit et s'en aller dans un endroit un peu plus tranquille. Et je ne suis pas une experte en navigation, mais lorsque le capitaine a pris cette décision-là, ça m'a rassurée parce qu'il a choisi de se retirer pour pouvoir jeter l'ancre dans un endroit que l'ancre pouvait s'accrocher solidement. Et pour tout le monde, tout l'équipage qui était là, on a tous comme juste lancé un grand soupir de soulagement parce qu'on s'est senti dans cette tempête-là rassuré parce que l'ancre nous retenait, parce que l'ancre empêchait notre bateau de dériver. Et c'est exactement ce que la parole de Dieu nous dit. Lorsque l'espoir est cette ancre-là, lorsque la tempête, les vents soufflent, elle nous garde à l'abri, elle nous solidifie. Et Lee Strobel, si vous aimez lire sur le sujet de l'espoir, je vous conseille ce livre-là du journaliste d'enquête Lee Strobel. Il a dans son livre « The Case for Hope », il a fait une citation qui m'a profondément marquée. Il a écrit « L'espoir a un impact uniquement si nous l'ancrons, comme cette ancre de bateau, hein, si nous l'ancrons à celui qui a le vrai pouvoir ». Et pour nous, comme chrétiens, le vrai pouvoir, il s'agit de Jésus-Christ qui est mort et ressuscité. Et c'est exactement ce qui est écrit hein, dans 1 Pierre au chapitre 1, verset 3 à 4. C'est un verset qui est tellement puissant et qui correspond, qui nous montre la fondation de notre espoir. 1 Pierre, chapitre 1, verset 3 à 4, il est écrit hein, « Dans son grand amour, Dieu nous a fait naître à une vie nouvelle grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour nous donner une espérance vivante. La résurrection, la mort et la résurrection de Jésus-Christ que nous venons de célébrer à Pâques et nous permet d'avoir cette espérance vivante-là pour nos vies, car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous, pour moi, pour nous. Il le tient en réserve pour nous dans les cieux. Et je ne sais pas si ça vous fait du bien comme ça m'en fait, mais dans cette période trouble que nous vivons, lorsque nous plaçons notre espoir en Jésus-Christ mort et ressuscité, il est possible d'avoir cette espérance vivante ici-bas, sur la terre, peu importe ce que tu vis, et aussi la plus grande des espérances, celle qui sera éternelle dans le ciel où toutes les larmes, toutes les craintes vont être effacées. L'espoir ne repose pas sur nos émotions, mais l'espoir repose sur notre solide fondation qui est Jésus-Christ mort et ressuscité. L'espoir aussi est un choix qui engendre des bénédictions. Et dans le livre de Jérémie, le prophète Jérémie, au chapitre 17, écrira, au verset 7 à 8, c'est écrit « Béni soit l'homme, heureux l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. Lorsque je place mon espérance en l'Éternel, je suis béni, je suis riche en bénédiction. » Ça dit, il ressemble à un arbre planté près de l'eau qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas, de l'avenue de la chaleur et son feuillage reste vert. Peu importe la sécheresse, peu importe les saisons de la vie, lorsque je place ma confiance et mon espérance en l'Éternel, mes racines trouvent l'eau. Et je porte, il dit, lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien et il ne cesse de porter du fruit. J'aimerais partager avec vous quelques bénédictions de choisir l'espoir. Si on regarde ensemble les bénédictions de l'espoir, l'espoir procure une attitude positive face à la vie. L'espoir nous donne un calme dans notre esprit et dans nos émotions. C'est de croire, hein, je vous rappelle la définition, c'est d'espérer en quelque chose de meilleur au lieu d'espérer ou au lieu de s'attendre à un scénario catastrophe. L'espoir, une des bénédictions, c'est un rafraîchissement pour l'âme. Ça enlève les soucis, ça enlève peut-être les fardeaux sur nos épaules. Qu'est-ce que les bénédictions de l'espoir? L'espoir nous donne beaucoup de choses. C'est l'espoir, pensez à ces jeunes, je vous ai parlé au début de ce message. L'espoir donne des rêves. Peut-être que tu as perdu espoir et aujourd'hui, Dieu, avec la pandémie, on dirait qu'on ne sait pas comment on va retrouver nos repères et notre vie. Dieu, aujourd'hui, peut te redonner des rêves. L'espoir peut te donner la motivation pour atteindre tes objectifs, de l'anticipation pour quelque chose de bon. On dirait que la pandémie nous a usé et qu'on s'imagine toujours un autre variant, une troisième, une quatrième vague. On est presque oublié d'attendre des choses positives. Qu'est-ce que c'est aussi l'espoir? Qu'est-ce que ça apporte? De la force, de la persévérance et de la patience. L'espoir, ça nous donne aussi une meilleure perspective. Qu'est-ce que ça donne, l'espoir? Ça nous donne la persévérance, ça nous donne de la foi pour ne jamais abandonner. Je veux te dire aujourd'hui, si tu places ton espoir en Dieu, il peut renouveler tes forces, apporter du fruit, te donner un fruit nouveau. N'abandonne pas. De la foi, l'espoir nous donne de la foi pour croire qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Et finalement, l'espoir nous donne la foi pour croire que tout peut changer. Je veux le dire à quelqu'un qui a besoin de l'entendre, tout peut changer. Garde espoir. L'espoir, Ça engendre des bénédictions, comme on vient de le voir. Mais si je suis honnête aussi, l'espoir implique des décisions. J'aimerais qu'on revienne à notre texte de base en Hébreux, chapitre 10, verset 23. Et j'ai mis l'accent au début du message sur la dernière partie de ce texte-là. J'ai dit que nous pouvons avoir espoir, de vrais espoirs et non de faux espoirs, parce que celui qui a fait la promesse est digne de confiance. Mais la première portion de ce passage-là, met l'emphase, c'est écrit, il y a quelques mots qui sont tellement importants. Il est écrit « Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie. » Et lorsque je méditais sur ce passage-là, c'est comme si ces mots sont sortis du texte et la pensée qui est venue à mon esprit, l'auteur met en avant-plan, commence, nous parle de l'espoir en commençant, en nous disant « restons fermement attachés à l'espoir ». Si on y pense un peu, si on arrête et on réfléchit sur ce texte-là, ça sous-entend s'il faut rester fermement attaché à l'espoir, cela sous-entend qu'il est possible de s'en détacher. Cela sous-entend qu'il est possible qu'à un moment dans notre vie que nous pouvons être ébranlés dans notre espoir. Et c'est pour ça que l'auteur va dire, quand tu es ébranlé, quand le vent souffle, reste attaché. Et souvent, si on est honnête, et j'aime le dire à chaque fois que j'apporte la parole, je suis pas ici pour vous impressionner, pour vous montrer comment je suis une grande héroïne de la foi. Et vous, dans votre salon, vous n'êtes pas ici aussi pour nous impressionner. On est ici pour mettre notre cœur devant Dieu et de regarder, Seigneur, est-ce qu'en ce moment, mon espoir est ébranlé? Est-ce que je vis une situation aussi difficile? Et je veux enlever toute culpabilité, toute honte. Les plus grands héros de la foi ont eu des moments dans leur vie et où ils ont eu de la difficulté à rester attachés à l'espoir. Vous savez, dans les psaumes, à plusieurs reprises, David va écrire, il va dire « Pourquoi t'abattu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Espère en Dieu, mon âme, car je le louerai encore. » Choisir l'espoir, c'est prendre une décision de parler à son âme. C'est décider d'espérer encore. Espérer n'est pas un verbe qui est passif. Espérer, c'est un verbe qui est actif. Lorsque je choisis l'espoir, je choisis de me comporter non pas comme un vautour, mais comme un colibri. Et juste pour vous, alors qu'on parle d'espoir et peut-être que je m'adresse à un homme, une femme, que vous êtes dans une situation qui est peut-être désespérée, que vous vous sentez ébranlé dans votre espoir, permettez-moi un peu d'humour. Mais dis à la personne dans ton salon, je ne sais pas à côté de qui tu es assis, si tu es tout seul, dis-toi ou dis à la personne à côté de toi, Dieu veut faire de toi un colibri. Et peut-être que cette phrase-là peut te paraître un peu drôle, surtout si la personne à côté de toi mesure 6 pieds, quoi, 1,8 mètre, ou fait 200 livres ou presque 100 kilos, quoi. Mais dis-lui quand même, Dieu veut faire de toi un colibri. Et je riais parce que lorsque on regarde vautour ou colibri, bien sûr, on voudrait tout être un colibri. Parce qu'un vautour, c'est quelque chose qui est négatif, mais c'est tellement une image qui va vous frapper, en tout cas, qui m'a frappée et qui me reste lorsque je me préparais. Des fois, dans la semaine, vous savez, on a tous des combats et des fois, je me disais, Stéphanie, est-ce que tu te comportes comme un vautour ou comme un colibri? Et pourquoi je dis ça? Parce qu'un vautour, c'est un oiseau qu'on dit nécrophage. Et un organisme nécrophage, c'est un animal, un oiseau qui se nourrit de bêtes mortes, de ce qui est mort. Tandis que le colibri, tout beau, tout mignon, tout coloré, lui se nourrit de nectar, qui est un liquide qui est sucré, qu'on retrouve dans les fleurs qui sont colorées, fraîches. Et il y a tellement une différence entre le vautour qui mange ce qui est mort et le colibri qui se nourrit de nectar. Et je crois que vous comprenez, vous savez où je veux m'en venir. Nous nous comportons, et sans vouloir vous insulter, tu te comportes, je me comporte comme un vautour quand je nourris mon âme de choses qui sont mortes. Qu'est-ce que les choses qui sont mortes qui peuvent nous affecter? Des paroles négatives. Lorsque je suis ébranlée dans mon espérance, dans mon espoir, je commence à nourrir mon âme peut-être de paroles négatives, de prononcer des choses négatives sur ma vie, sur la vie des gens autour de moi. Lorsque je me nourris de choses mortes, c'est que j'alimente mes pensées de scénarios catastrophes. J'alimente mes pensées d'attentes négatives. C'est comme s'il arrive un événement et ton premier réflexe, c'est de dire « Ben non, ça se peut pas. Ben non, ça arrivera pas. Ben non. » Vous voyez un petit peu qu'est-ce que c'est se nourrir de choses qui sont mortes, d'envisager toujours le pire. Lorsque je me comporte comme un vautour, c'est quand je cultive. Peut-être que personne, c'est entre toi et Dieu. Peut-être que tu te lèves le matin, tu es envahi avec des pensées, une mentalité de victime et d'apitoiement. Peut-être que la pandémie t'a frappé plus dur que les autres et que tu te dis peut-être, ben moi, là, elle n'a pas vécu ça comme ça. Lui, c'était plus facile pour lui, la pandémie. Moi, j'ai vécu ça comme ça. Ça peut être dans l'esprit par rapport à notre vie professionnelle. Elle réussit, moi, je réussis pas. Ses enfants réussissent, mes enfants ne réussissent pas. Son mariage, tu vois un peu, lorsque je m'alime, je nourris mon âme, je prends une mentalité de victime, d'apitoiement, et lorsque je me compare aux autres. Et c'est tellement important. Choisir l'espoir, c'est choisir de nourrir notre âme avec du nectar, avec les promesses de Dieu, avec la présence de Dieu, avec la parole de Dieu. Et c'est exactement ce que le prophète Jérémie a fait dans le livre des Lamentations. C'est un texte qui est tellement puissant. Lamentations, chapitre 3, verset 19 à 26. J'ai fait un petit condensé, mais ça dit, Jérémie va dire, quand je pense à ma détresse et à ma misère, quand je pense à ce que je vis, et je le fais avec un sourire, mais il vit des choses extrêmement difficiles. Et je sais que vous, certains d'entre vous, vous écoutez ce message et vous traversez des moments difficiles. J'ai et je traverse des moments difficiles. Et chacun d'entre nous, on peut arriver puis dire, quand je pense à ce que je traverse, quand je pense à la douleur, quand je pense à la maladie, vous savez, j'apporte ce message-là. Et en ce moment, sitôt que le message va être terminé, je vais aller... rendre visite à quelqu'un qui est entré aujourd'hui dans une maison de fin et de vie. Et des fois, on est porté à dire, quand je pense aux défis de la vie, à la maladie, quand je pense à des problèmes financiers, quand je pense à des soucis peut-être dans ma maison, peu importe ce que tu vis, le prophète Jérémie vivait des choses difficiles. Il dit, quand je pense à ma détresse, quand je pense au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Et j'aime la véracité, j'aime la transparence, parce que c'est vrai que c'est difficile parfois. Mais voici ce que je veux repenser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Nourris ton âme en te rappelant que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Oh! Que ta fidélité est grande. Dieu est fidèle. Il est immuable. Il ne change pas. Ses promesses ne changent pas. Et l'Éternel est mon bien, dit mon âme. Choisir la joie, c'est parler à mon âme. C'est pourquoi je veux, je choisis, je décide, je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté. Pour qui? Pour ceux qui espèrent en lui. Pour ceux qui placent leur espérance, leur espoir en lui. Pour l'âme qui le cherche, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Et alors que j'arrive à la fin de ce message, j'aimerais vous dire que l'espoir est un choix qui ne repose pas sur nos émotions, mais sur une solide fondation. L'espoir, comme nous l'avons vu, engendre des bénédictions. L'espoir demande des décisions. Mais j'aimerais te rappeler que l'espoir triomphe en tout temps de toutes les déceptions. Et comme je viens de le partager, choisir l'espoir ne veut pas dire vivre dans le déni. Il est possible de se faire voler notre espoir. Lorsqu'on attend pendant un certain temps une attente à une promesse de Dieu, lorsqu'on attend une réponse à nos prières, lorsqu'on est secoué par la tempête. Mais savez-vous, le plus grand des voleurs d'espoir, personnellement, je crois, c'est la déception. La déception, c'est quand ce que nous vivons, nos attentes ne sont pas à la hauteur de ce que nous espérions. Et la déception, ça nous use, c'est un voleur sournois. On s'en aperçoit pas, mais graduellement, il finit par nous user tranquillement. Il emmène dans notre vie cette désillusion-là qui fait qu'on n'ose plus espérer par peur d'être blessé. Et comment la désillusion ou la déception peut prendre toutes sortes de formes? Peut-être je m'adresse à un couple ici, vous écoutez ce message et votre désir le plus cher, c'est d'avoir un enfant et que mois après mois, ça ne fonctionne pas et vous ressentez cette tristesse, cette déception dans votre cœur. Ça peut être la déception, une promotion. Vous avez travaillé durant la pandémie comme un fou durant toute l'année et vous attendiez cette promotion et finalement, c'est le collègue qui l'a à côté. C'est quoi la déception? C'est toutes sortes de choses. Ça peut être par rapport à vos enfants, des choses que vous avez espérées. Ça peut être une carrière qui n'arrive pas. Ça peut être un refus à l'université. Et peut-être, je voudrais pas vous choquer, mais des fois, il est possible d'avoir le sentiment d'être déçu de Jésus. Et là, vous dites, ben non, c'est impossible, Stéphanie, c'est des inconvertis, c'est des incroyants qui pensent ça. Vous savez, il y a des amis, les amis de Jésus ont déjà pensé que Jésus les avait abandonnés, ils étaient déçus. Et alors que j'arrive à la fin, je voudrais juste vous terminer en vous rappelant ce dernier passage-là des Écritures. Je vous remets dans le contexte, c'est les disciples, Jésus est mort, il est mort cloué sur une croix. Et la Bible nous dit, dans l'Évangile, Luc a écrit dans son Évangile, qu'il y a deux disciples qui marchent sur un chemin. On appelle ce chemin le chemin d'Emmaüs. Et alors qu'ils marchent sur ce chemin, ils ont le cœur dans la tristesse, ils ont le cœur, ils ont dans l'amertume peut-être. C'était leur ami, leur frère, et maintenant Jésus est mort. Ils sont attristés, ils espéraient en lui. Pendant 3 ans, imaginez, ils ont marché avec lui, ils ont tout sacrifié pour le suivre. Ils lui faisaient confiance, ils croyaient que Jésus était leur Messie. Et finalement, l'histoire se finit de façon tragique, horrible. La fin de l'histoire, c'est que Jésus est crucifié. Et alors qu'ils sont sur le chemin, Luc nous raconte ce qui a pris place. Et on va lire ensemble alors qu'on termine. Pendant qu'ils échangeaient leurs propos et leurs réflexions, Jésus lui-même s'approcha d'eux. Il s'approche de ces deux disciples-là et les accompagna. Mais imaginez, c'est fou. Ils sont en train, ils sont déçus, ils sont dans l'amertume. Puis pendant qu'ils se racontent leur déception, leur peine, Jésus entre dans la scène. Mais leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. Il leur dit, de quoi discutez-vous en marchant? Ils s'arrêtèrent, l'air attristé. Et l'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul parmi ceux qui séjournent à Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'est passé ces jours-ci? « Quoi donc, leur demanda-t-il, ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth? » Et la suite du texte nous dit, c'était un prophète qui agissait et parlait avec puissance devant Dieu et devant tout le peuple. Nos chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré aux Romains pour le faire condamner à mort et clouer sur une croix. Nous avions espéré en lui qu'il était celui qui devait délivrer Israël, mais hélas, voilà déjà 3 jours que cela est arrivé. Et peut-être que tu peux te reconnaître dans la vie de ces disciples-là. Ces deux hommes-là avaient mis leur espérance en Dieu. Et si on arrête l'histoire pour un instant, à ce moment précis-là, alors qu'ils sont déçus, ils n'arrivent même pas à réaliser que Jésus marche sur leur chemin de la déception. Je ne sais pas si tu peux te reconnaître dans ce passage-là. Juste te rappeler qu'alors qu'ils sont sur le chemin de la déception et qu'ils ont perdu l'espoir, Jésus ne les a jamais abandonnés. Jésus marchait à leur côté. Ce n'était pas Jésus qui était absent, c'était la déception qui leur empêchait de voir Jésus. Et je crois sincèrement que tu marches peut-être sur le chemin de la vie et que tu as une déception dans ton cœur, et que tu as de la difficulté aujourd'hui peut-être à placer ton espoir en Jésus. Je veux te dire que Jésus marche avec toi sur ton chemin. Il ne t'a jamais abandonné. Et savez-vous la fin de l'histoire? Qu'est-ce qui est arrivé? On va voir la suite du texte. Alors qu'ils vont entrer en communion avec Jésus, leurs yeux vont s'ouvrir et ils vont pouvoir le voir. La suite du texte nous dit, « Entre-temps, ils arrivèrent dans un village, ils arrivèrent près du village où ils se rendaient. Alors, il entra dans la maison pour rester avec eux. Il se mit à table avec eux et prit le pain. Et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le partagea et leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Et ils ont pu réaliser que Jésus n'était pas mort, mais que Jésus était ressuscité. C'est la communion avec Jésus qui permet à nos yeux de s'ouvrir et de reconnaître que Jésus ne nous a jamais abandonnés, de réaliser que Jésus n'était pas juste, il était rendu, qu'il disait « Jésus, c'est un prophète ». Il avait oublié que Jésus était le Messie. Ils sont revenus, leurs yeux se sont ouverts. Ils ont reconnu qu'il était ressuscité et aussi ils ont vu que tout ce que Jésus avait dit, il l'a accompli. J'aimerais le dire, alors que nous terminons, à quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui, la crucifixion semblait être pour ces deux hommes-là le plus grand lieu de défaite, alors qu'en ce moment-là, ils étaient en train de vivre le plus grand moment de victoire. La crucifixion, la trahison de Jésus n'a pu empêcher le plan de Dieu de s'accomplir, bien au contraire, elle a contribué à sa réalisation. Sache, garde espoir en Jésus, car Dieu peut changer aujourd'hui tes plus grands lieux de défaite en plus grands moments de victoire. Alors, j'aimerais juste t'encourager, alors que nous allons terminer en prière, n'oublie jamais que Jésus ne t'abandonne jamais sur le chemin de la vie. Il marche avec toi. N'oublie jamais que ce qui semble mort peut être ressuscité. Jésus a la capacité, Dieu a la capacité de ressusciter spirituellement toutes les situations de ta vie. Il faut que tu gardes espoir en lui. Choisis l'espoir. Alors j'aimerais que nous puissions juste terminer avec un moment de prière là où tu es, peut-être dans ta chambre, dans ton salon. Que juste peut-être mettre de côté toutes les choses, les distractions, le café, peu importe. Et j'aimerais qu'on puisse prier qu'aujourd'hui, dans ces moments difficiles, dans ces moments de pandémie, nous puissions choisir l'espoir. Que nous puissions choisir l'espoir, peu importe nos émotions. Que nous puissions choisir l'espoir parce que nous avons une solide fondation en Jésus-Christ mort et ressuscité. Et choisir l'espoir parce que Dieu triomphe sur toutes les situations de nos vies. Alors, juste fermez-les. On va fermer les yeux juste quelques instants. Seigneur Jésus, je te remercie. Merci pour ta parole qui ne revient pas sans avoir fait son effet. Je veux te dire merci parce qu'aujourd'hui, tu peux nous donner la force de choisir l'espoir. Je prie peut-être pour quelqu'un qui écoute ce message et qui est face à une situation qui lui semble désespérée. Viens, tu es le Dieu de l'espérance. Alors, je te prie, viens en ce moment, dans la simplicité de ce moment, mais dans la puissance de ton